48 FM.
Le Mag. Culture,
logement, environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme.
Rubrique pratique.
48 FM, le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du MAG avec moi pour présenter cette émission Ludovic.
Bonjour Julia, bonjour à tout le monde.
Alors après un MAG un peu particulier la dernière fois sur le thème de la ruralité, aujourd'hui nous allons revenir à un format un peu plus classique, donc une heure d'émission et deux thèmes d'actualité. Donc aujourd'hui nous allons parler d'agriculture et notamment de syndicats agricoles avec Julien Tuféry qui est président des jeunes agriculteurs de Lozère. Bonjour.
Bonjour.
Et nous parlerons ensuite de sport, association et éducation populaire avec Stéphane Salva, délégué départemental de l'UFOLEP. Donc bonjour Stéphane.
Bonjour.
Donc nous allons commencer avec vous Julien, vous êtes donc président des jeunes agriculteurs de Lozère, comme je l'ai dit. C'est un syndicat professionnel agricole dont les responsables professionnels sont des agriculteurs âgés de moins de 35 ans. Votre rôle est, pour résumer en quelques mots, d'assurer le bon renouvellement des générations agricoles et de représenter et défendre les intérêts principalement autour de la notion de l'installation en agriculture des jeunes. Donc on va commencer peut-être avec une première question. Vous avez eu votre assemblée générale il y a peu, où en est le syndicat? Comment il va?
Alors comment il va? Le syndicat, c'est un syndicat de combat et puis de travail surtout. Nous, aux jeunes agriculteurs, nous avons le syndicat des jeunes agriculteurs qui défend bien sûr l'intérêt des agriculteurs, vous l'avez rappelé tout à fait bien. Il y a aussi le point info installation. Donc le point info installation, c'est le point qui accueille tous les jeunes porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui veulent se lancer dans l'agriculture. Donc c'est nous, les jeunes agriculteurs, qui centralisons ça. C'est une mission qui nous a été confiée par délégation du ministère de l'Agriculture, et donc c'est tout à fait officiel. Nous avons à côté de ça les groupements d'employeurs, donc une association qui gère les groupements d'employeurs pour fédérer l'emploi entre plusieurs agriculteurs ou des municipalités, etc. Nous avons également le service remplacement à côté de ça. Donc au total, les jeunes agriculteurs génèrent au total un équivalent de 55 salariés sur la Lozère par les structures jeunes agriculteurs et les structures dédiées. Donc c'est beaucoup de travail pour arriver à faire que tous ces rouages fonctionnent. Parce que je rappelle qu'aux jeunes agriculteurs, il n'y a pas de directeur. Donc c'est bel et bien les responsables qui ont les mains dans le cambouis, les présidents des structures qui sont tous les jours au charbon pour gérer avec les salariés. Bien évidemment, nous avons des animatrices de grande qualité, mais avec les salariés, toute l'actualité et tout le travail des jeunes agriculteurs.
Il y a combien de jeunes agriculteurs qui sont syndiqués chez vous?
Alors, on a environ 200-250 jeunes agriculteurs syndiqués aux jeunes agriculteurs. Ça fait un peu plus de 10% du total des agriculteurs du département, ce qui, alors, un nombre absolu n'est pas exceptionnel, mais par contre, en pourcentage, est très bon par rapport à notre moyenne nationale.
Vous êtes un syndicat dynamique, vous expliquez, donc vous battez pour l'installation, ce point info installation, etc. Vous organisez aussi beaucoup de manifestations, on va revenir dans cette émission, il y en a dernièrement qui se sont tenues. Au niveau de l'actualité, bien entendu, vous êtes là également pour défendre les intérêts des agriculteurs, on l'a dit, l'actualité c'est encore une fois, on va dire, ce loup qui est revenu. Au pont de Montvert exactement, 4 agnelles attaquées, une première attaque alors que les troupeaux viennent juste de sortir, donc vous demandez aux jeunes agriculteurs de mettre en place des mesures adéquates. C'est quoi en gros ces mesures?
Mais nous on demande tout simplement que monsieur le préfet prenne les mesures qu'autorise le plan loup. Ségolène Royal a assoupli plusieurs fois le plan loup. Je crois qu'aujourd'hui on a les mesures on a quelques moyens pour lutter contre le loup. Je vous rappelle que au niveau national, il a été instauré un quota du nombre de prélèvements de loups qu'on pouvait faire sur l'année 2014. On pouvait tuer 36 loups. On en a tué à peine 10. Donc ce qu'il faut, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas qu'on attende l'automne. Il faut que dès aujourd'hui, et j'ai eu le préfet au téléphone ce matin qui m'a confirmé qu'il donnerait des autorisations de tir de loup dans les jours prochains, que les agriculteurs puissent se défendre. Parce que on entend tout et son contraire sur le loup. Et notamment des gens qui disent « Mais qu'est-ce qu'ils en ont, ces paysans? Ils ont qu'à laisser le loup tranquille, le loup, c'est la nature. » Très bien, moi je suis pas contre. Mais qu'on se pose des bonnes questions. Et qu'on dise « Soit... » on veut des agriculteurs, un paysage ouvert, etc. Soit on veut le loup. Mais l'un et l'autre ne sont pas compatibles. Donc on se pose des bonnes questions. Et puis moi je dis à tous ces gens qui qui disent le loup c'est un gentil animal. Il faut aller voir les agriculteurs attaqués. Il faut aller voir les animaux attaqués. La souffrance des bêtes. Voilà. Nous, tout ce qu'on dit, c'est nous on est du côté des agriculteurs, on est du côté des animaux qui souffrent. Voilà. Est-ce que aujourd'hui on est capable de dire, alors que on dit dans les abattoirs, on voit des reportages, on dit dans les abattoirs les bêtes souffrent. Est-ce qu'on est capable de dire oui, nous on veut que des brebis passent des pleines nuits à se faire courir après, égorgées, qu'elles avortent, que, voilà. C'est ça les questions qu'on doit se poser. Est-ce qu'on veut ça ou est-ce qu'on veut trouver une solution équitable pour que les agriculteurs arrivent à vivre de leur métier et puis qu'ils continuent à entretenir le territoire? Parce que l'attaque a eu lieu au pont de Montvert. J'y pars tout à l'heure. Un territoire particulièrement difficile du point de vue du climat, du point de vue du relief, etc. Les agriculteurs, s'ils n'ont pas des brebis, si ça continue, s'ils continuent à se faire manger par les brebis, par le loup, ils vont dire, ça fera bien, on va changer de truc, nous. On va faire autre chose. Donc, s'ils s'en vont, les agriculteurs, qu'est-ce qui se passe? C'est la broussaille, c'est voilà. Donc, aujourd'hui, soit on dit, on veut une belle Lozère dynamique avec des milieux ouverts et avec des agriculteurs, soit on dit, on veut le loup, et à ce moment-là, faut le dire clairement. Voilà.
Ouais, mais comment faire? Parce qu'on voit que justement on a annoncé 36 loups, on arrive à en tuer que 10, parce que faut dire ce qui est, hein, pour attraper un loup, pour réussir à le tirer, c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est
nous ce qu'on demande, tout simplement. Alors c'est vrai que c'est très très difficile de tuer le loup. C'est pour ça qu'il faut donner une amplitude importante au niveau législatif et réglementaire pour pouvoir le tuer. Nous ce qu'on demande, c'est que dès aujourd'hui, dans les endroits où les troupeaux ont été attaqués, on puisse tirer sur le loup, l'agriculteur puisse tirer. Dans le cadre où il a été formé, on ne demande pas de revenir au western, hein, on veut que des agriculteurs soient formés avec le permis de chasser, manier une arme, c'est pas un détail. Avec le permis de chasser, la formation pour tirer le loup, puisqu'il y a une formation, qu'il puisse tirer le loup, qu'il puisse se défendre en cas d'attaque, qu'il puisse au moins avoir le sentiment, et plus que le sentiment, qu'avoir l'efficacité, bien évident, mais avoir le sentiment qu'on n'est pas là pour laisser faire, pour se laisser manger, tout son troupeau, voilà.
On a annoncé une première attaque, mais il y en aurait eu d'autres quand même avant, sur des agnelles, notamment dans le parc.
Oui, alors on a eu plusieurs attaques de loups. Alors cette année, il attaque dans les Cévennes prioritairement, mais aussi on a eu ce week-end une attaque sur l'Aubrac à Saint-Pierre-de-Nogaret. Et encore, on est à l'attente de savoir si c'est bien un loup ou si c'est un chien. Je rappelle au passage que l'année dernière, nous avions eu une attaque de loup sur le braque sur un veau. Nous l'avions relayé. Et par la suite, la préfecture avait dit, oui, il s'emballe un peu, ce n'est pas un loup. Et puis, au fil d'une réunion du comité de suivi loup qui a lieu mensuellement à la préfecture, on nous a dit, ah, finalement, c'était un loup. Mais on nous l'a dit tout à fait doucement. Donc, de temps en temps, il faut un peu rétablir la vérité.
On va revenir à l'Assemblée Générale qui s'est tenue la semaine dernière. C'était une Assemblée Générale notamment sur le thème du foncier. Il y a un problème au niveau du foncier en Lozère?
Le problème, il est global. Il est d'abord qu'on a la population mondiale qui augmente. Ça, c'est un fait. 9 milliards d'êtres humains en 2050, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas occulter. Le deuxième problème, c'est l'artificialisation des terres. Au niveau national, au niveau français, nous perdons l'équivalent d'un département en terre agricole tous les 7 ans. Donc ça, c'est le fait des infrastructures, de la vie qui évolue, des routes, etc. Et notamment aussi des lotissements. Mais ça, c'est, je crois que ça, on peut faire évoluer les choses, mais c'est le cours normal des choses. Nous, en Lozère, on dit, on a la chance d'avoir des territoires... Enfin, on a la chance. On a eu une déprise agricole très importante. Je vous rappelle les chiffres. En 1860, seulement 6% de la Lozère était constituée de surfaces non agricoles. Autant vous dire que 94% de la surface était terre agricole. Il y a eu les guerres, il y a eu la déprise agricole. Aujourd'hui, nous sommes à peine à 50% de terre agricole en Lozère. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il nous faut reconquérir des terres agricoles, mais pas reconquérir pour reconquérir. On n'est pas là pour dire... Certains croient que les agriculteurs font des nouveaux champs pour promener leurs gros tracteurs. C'est pas du tout ça. L'objectif, c'est augmenter la surface agricole, donc en gagnant sur des parcelles... notamment sur des parcelles avec des mauvais arbres ou avec de la broussaille, etc., pour augmenter la production et l'autonomie des exploitations, parce qu'aujourd'hui, une des difficultés qu'on a en Lozère, c'est que nos exploitants lozériens sont les agriculteurs qui ont le plus faible revenu au niveau national. Et donc, on doit y faire face et trouver des solutions. On n'est pas là, nous, responsables agricoles, pour dire c'est comme ça et puis on n'y peut rien. Il faut qu'on trouve des solutions et la solution, c'est une des solutions, c'est augmenter l'autonomie des exploitations. Aujourd'hui, beaucoup d'agriculteurs lozériens achètent une partie de leur fourrage de leur concentré à l'extérieur. Si on arrive à gagner 5-10 hectares par exploitation, on augmentera l'autonomie des exploitations. Et les exploitations, ce matin, j'étais à l'Assemblée Générale du Centre de Gestion de l'Agriculture, du CER, et qui montrait très bien que les exploitations les plus autonomes sont celles qui ont les meilleures performances économiques. Et il faut qu'on ait de la performance économique, parce que si on n'a pas de performance économique, nos exploitations et nos entreprises ne sont pas reprenables, et on ne pourra plus installer de jeunes. Donc c'est vraiment un système tout à fait global dans lequel il y a la nécessité de reconquérir du foncier.
Non, vas-y.
Oui, parce qu'en fait, voilà, on demande que le département de la Lozère ait davantage de population. On sait que c'est un souci, on va atteindre les 100 000. On voit souvent des personnes, des jeunes qui ne trouvent pas de terrain pour construire. Donc vous expliquez bien, ce n'est pas n'importe quel terrain qu'on voudrait. C'est des terrains en friche, c'est des terrains compliqués où on ne peut pas construire et où nous, on pourrait augmenter notre capacité, notre volume pour avoir des salaires plus décents.
C'est ça. Alors, il faut quand même faire attention à la consommation des terres agricoles. En Lozère, je dis qu'on est peu concerné. Moi, je vois régulièrement mes collègues de toute la France et ils nous disent régulièrement que en zone périurbaine, il y a une difficulté. Je crois qu'il faut qu'on se rende compte aussi que d'avoir sa maison au milieu d'un demi-hectare, c'est pas la solution de modèle de développement pour l'avenir. Il faut que les terres agricoles restent agricoles parce que la population augmente et qu'il faudra nourrir les gens. Alors, on a l'impression qu'on est loin de tout ça, qu'on aura toujours les supermarchés pleins, et je l'espère de tout cœur. Mais on touche du doigt, il y a eu les émeutes de la faim en Afrique du Nord il y a quelques années. Je veux dire, c'est à côté de chez nous. Hein, ça peut se passer demain chez nous. Il y a à peine 70 ans, nous avions encore les tickets de rationnement. C'était hier à l'échelle de l'humanité. Donc n'oublions pas que ce qu'aujourd'hui on a, c'est-à-dire à manger à profusion, etc., faisons attention que dans quelques années, nous pouvons toujours le faire.
Vous parliez tout à l'heure de défrichement. La loi d'orientation agricole, elle n'est pas vraiment favorable à ça.
Alors, la loi d'orientation agricole, nous, effectivement, la loi d'orientation agricole n'est pas favorable à ça parce que la loi d'orientation agricole a pour objectif de préserver les terrains boisés, agricoles, etc. Sauf que dans le cas de la Lozère, qui a connu une forte déprise, elle est tout à fait anachronique avec le développement. Et donc, c'est ce qu'on veut essayer d'expliquer. Mais la loi d'orientation agricole, elle dit il faut conserver les bois et les forêts. Et nous, jeunes agriculteurs, on dit bien évidemment qu'il faut conserver les bois et les forêts qui sont des bois de qualité, cultivés, etc. Nous avons besoin de ça. Mais ce que nous disons, nous, c'est qu'en Lozère, nous avons toute une partie très importante des bois et forêts qui sont des pins ou d'autres arbres qui ont poussé de façon spontanée suite à la déprise et qui n'ont aucun intérêt ni pour les forestiers ni pour l'agriculture. Donc nous, ce qu'on dit, c'est les bois et forêts, ok, il en faut, avec des choses cultivées qui produisent des meubles notamment. Hein. Je vous rappelle que la filière bois au niveau national, nous avons beaucoup de bois en France, et pourtant notre balance commerciale dans les bois est défavorable, parce que on a l'intelligence, ou la non-intelligence, de produire beaucoup de bois, mais qui vont faire quoi? Qui vont faire des palettes, qui vont faire des copeaux, alors que quand on faut acheter un meuble, on l'achète chez les autres. Voilà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est optimisons toutes les filières, optimisons la forêt pour qu'à la fin, on vende des meubles ou on vende des produits élaborés et laissons une place importante à l'agriculture qui est gage d'une valeur ajoutée très importante.
Les jeunes agriculteurs, justement, vous vous mettez à faire des petites vidéos, des petits sketchs sur ces thèmes-là pour passer le message, en fait, peut-être.
Ouais. Oui, nous, on essaye de tourner ça à la dérision, mais si vous voulez, on a deux méthodes pour parler. Soit on fait du fatalisme et on dit que tout va mal et on peut le dire perpétuellement, mais je crois que dans ces moments de crise économique, on en entend assez des gens qui disent que tout va mal. Nous, aux jeunes agriculteurs, on est là pour dire voilà, c'est complètement dérisoire les réglementations absurdes qui nous tombent sur le coin sont complètement absurdes. Donc voilà, on tourne ça à la dérision, mais avec du fond. C'est ce qu'on veut bien expliquer. Et c'est qu'il y a du fond, il y a un vrai sujet, à chaque fois il y a un vrai sujet et ça touche le quotidien des agriculteurs de Lozère.
Alors bien entendu, lors de l'AG, il a été question de la PAC. Hein. On en est où exactement lors de cette PAC, de cette nouvelle PAC?
Alors cette nouvelle PAC, elle entre en compte aujourd'hui, dès aujourd'hui, puisque nous devions faire nos déclarations dès aujourd'hui. Le ministre nous a laissé les déclarations de surface, je parle, puisque chaque agriculteur doit déclarer chaque année ses surfaces, etc., pour que les non-initiés comprennent. Donc la déclaration de surface, on a un peu plus de temps pour la faire, puisqu'il y a la mise en place de la nouvelle PAC. Elle est en train de se mettre en place. Il y a des points que nous nous sommes battus en Lozère, notamment sur les CHN, qui fait partie intégrante de cette politique. Aujourd'hui, on a réussi, il y a au niveau national, on a réussi à reclasser une partie de la Lozère. Il y a au niveau national 87 communes qui ont été reclassées à l'ICHN. Sur ces 87 communes en France, 86 sont lozériennes. Donc c'est un combat quand même qui a le mérite d'exister et qui permettra aux agriculteurs de mieux s'en sortir, j'espère.
Voilà, l'ICHN, l'indemnité compensatrice de handicap naturel, hein, pour expliquer.
Oui, excuse-moi, oui.
Pas de souci, mais du coup, toutes les communes, enfin ça n'a pas été étendu à l'ensemble du département, non ?
Il reste
une dizaine de communes qui est...
Alors, il faut rappeler toute la genèse de la chose. C'est un combat que nous menons depuis des dizaines d'années. C'est pas moi qui l'ai mené, puisque moi, il y a 10 ans, j'étais encore sur les bancs de l'école. Mais c'est un combat que la profession agricole mène depuis des dizaines d'années, notamment le président de la fédération, Olivier Boula, pour qu'on reconnaisse cette nouvelle PAC. Donc il a fallu qu'on se batte avec le ministère. Ça a été le premier point. Et avec notamment la vice-présidente du conseil régional, Sophie Pantel, nous sommes allés plusieurs fois au ministère pour défendre les intérêts de la Lozère, et on avait un dossier technique tout à fait complet. Le ministère nous a dit, voilà, si vous avez un dossier technique complet, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ensuite, on a réussi à trouver l'enveloppe, parce qu'il faut trouver l'enveloppe, c'est 1,5 million d'euros. Dans ces temps de crise, c'est pas aussi facile que ça de trouver 1,5 million d'euros. Et puis le troisième temps, ça a été un arbitrage un petit peu lozérien pour savoir qui allait être dans la zone et pas dans la zone. Nous, on s'est battu, la profession, pour que toute la Lozère soit dans la zone. L'administration avait exclu au début une trentaine de communes. Nous sommes arrivés à ce qu'on exclut seulement 11 communes. Mais pour nous, le combat, il n'est pas fini. Nous, on veut que ces 11 communes intègrent cette nouvelle zone sèche, parce que ça, c'est un gage de reconnaissance des handicaps, et notamment du climat méditerranéen. Nous nous sommes battus, et ce n'est pas des paroles en l'air. Nous, on dit, le climat. Nous avions des études climatiques qui disaient que le climat méditerranéen était remonté de 80 km vers le nord depuis les 20 dernières années. Ça, c'est réel. Hein, c'est ce qui s'est passé depuis ces 20 dernières années. Nous, on dit... Le climat remonte, il faut que la compensation des handicaps remonte. Parce que l'objectif de cette indemnité de compensation des handicaps naturels, c'est bien d'essayer de lisser, même si ça ne les lisse pas totalement, mais de lisser les inégalités entre les plaines et les montagnes, parce que sans ces politiques de montagne, nous n'aurions plus d'agriculteurs en Lozère.
On nous a annoncé que cette nouvelle PAC serait favorable à l'agriculture de montagne et à l'agriculture notamment lozérienne. C'est le cas ?
Alors, on est en train de voir les derniers arbitrages, et vraiment, c'est le diable se cache dans les détails. Nous, on s'est battu, et je crois qu'à la fin, la ferme Lozère va gagner. Enfin, je suis intimement persuadé, bien que des agriculteurs à l'intérieur de cette PAC soient plus ou moins favorables ou plus ou moins favorisés. Nous, on s'est battu pour que toute la Lozère gagne, et on s'est battu jusque dans les derniers jours. Il y avait encore des réunions d'arbitrage, notamment la semaine dernière à Montpellier, puisque les régions ont un poids important dans cette nouvelle PAC, puisqu'elles gèrent une partie des crédits en cofinancement de l'Europe. Et donc, on s'est battu encore il y a quelques jours à Montpellier pour que, sur les plages de chargement, sur des détails tout à fait techniques, précis, on ne perde pas. Si on est entendu, ça devrait bien se passer.
On parlait tout à l'heure donc d'installation. Là, sur les 8 dossiers qui ont été déposés en région, tous sont lozériens. C'est quelque chose de positif ?
Alors, il faut savoir que malgré qu'on soit dans une région à 5 départements, qu'on dit être le plus grand vignoble français, ça c'est très bien. Par contre, ceux qui installent les jeunes, vous l'avez rappelé, ce sont les lozériens. Nous installons, nous avons deux fois moins d'agriculteurs dans l'Hérault et nous installons deux fois plus. Ça, c'est la réalité des chiffres aujourd'hui en Lozère. On l'entend dire, et ça c'est pareil, on a un peu une habitude de s'autoflageller en disant nous ne sommes en Lozère, les jeunes s'en vont. Non, ça c'est pas vrai. Les chiffres montrent que les jeunes, ils restent plus en Lozère qu'ailleurs. Voilà, ça c'est la réalité des chiffres. Et aujourd'hui, on a une nouvelle programmation au niveau régional de l'installation. Et nous, on a beaucoup de jeunes qui voulaient s'installer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a déposé 8 dossiers depuis le début de l'année à la Chambre d'agriculture. Et c'est bel et bien des Lozériens et que des Lozériens qui y sont. Alors, c'est un signe, puis oui, parce que on continue d'installer en Lozère. C'est bien malheureux pour les autres, mais nous, en Lozère, on continue d'installer. On veut installer encore beaucoup de jeunes.
Et les années précédentes, c'était à peu près similaire ou...
On a grosso modo une cinquantaine d'installations aidées par an en agriculture. Donc, c'est le système d'installation aidée, c'est pas toutes les installations. C'est le système qu'on défend, nous, les jeunes agriculteurs. C'est des gens qui sont économiquement bon et socialement bien. C'est-à-dire que nous, on installe des jeunes, on dit, pour avoir des aides à l'installation, il faut être jeune, moins de 40 ans, être diplômé, diplôme niveau 4 obligatoire, avoir démontré que son business plan, son étude économique est bonne, tout simplement pourquoi ? Et là, on n'est pas tout à fait d'accord dans la profession agricole, notamment avec certains syndicats, la Confédération paysanne, etc. Ils disent l'agriculture c'est un projet de vie, c'est pas un projet économique. Nous on dit les agriculteurs, ils ont été les derniers de la société pendant des centaines d'années, hein, jusqu'à des années 60. Les agriculteurs étaient les moins que rien, qui vivaient de quelques patates et d'un peu de cochon. Nous on dit, on veut des agriculteurs qui soient au même niveau social et économique que leurs contemporains. Voilà, et c'est pour ça qu'on défend ce modèle-là.
Voilà, c'est la région au niveau de l'installation, ça a changé. On l'avait évoqué dans nos informations locales avec donc au niveau de l'installation, c'est une nouvelle formule depuis cette année. C'est pas obligatoirement mieux qu'avant. Il y a certains points qui désavantagent les nouveaux jeunes qui s'installent.
Oui, alors ça c'est vrai. L'installation se passait au niveau départemental. Aujourd'hui, elle se passe au niveau régional. On a eu les assises de l'installation régionale. Et le constat qu'on fait les assises, qu'est-ce qu'elles ont fait comme constat? Elles ont dit, on installe des jeunes dans nos croussillons, beaucoup en Lozère et pas beaucoup ailleurs. Essayons de trouver des solutions pour ailleurs. Et c'est là où on s'est un peu fait avoir, nous. Parce que comme on installait beaucoup, on a été moins pris en compte. Parce qu'on a dit, oh, mais à Lozère, ça se passe bien, ils installent beaucoup. Donc, du coup, nous, on s'est battu sur beaucoup de critères. On espère revoir de nombreux critères. Parce qu'aujourd'hui, l'installation, moi, je suis tout à fait pour qu'on aide les gens à s'installer aux alentours de Montpellier ou de Nîmes. Et c'est tout à fait ce qu'il faut défendre. Mais n'oublions pas les endroits les plus difficiles de notre territoire.
Et la région change. Il y a une petite crainte du côté des syndicats agricoles que maintenant les dossiers vont être gérés à Toulouse avec encore plus de départements ou pas. On se dit on reste combatif, on va aller à Toulouse, on va défendre nos intérêts.
On a des craintes, on peut en avoir, mais qu'est-ce que ça change qu'on ait des craintes ou qu'on n'en ait pas? C'est un fait. La législation dit au 1er décembre, nous aurons une seule grande région qui sera à Toulouse. Le code rural dit les chambres d'agriculture au niveau régional, doivent s'adapter aux échelons que définit la loi. Les syndicats agricoles sont fortement rattachés aux chambres d'agriculture. Donc nous n'avons pas le choix. Et on est d'ores et déjà au travail. Moi, j'ai participé à plusieurs réunions interrégionales, notamment avec nos amis de Midi-Pyrénées, pour trouver des solutions. Je fais partie aussi également, et nous, les jeunes agriculteurs, nous faisons partie de plusieurs groupes de travail, parce que notre objectif, quel est-il? Il est de développer un programme agricole régional avant les élections régionales de l'automne. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que aux personnes qui se présenteront pour représenter la région à l'automne, on dise voilà, nous notre vision de l'agriculture, c'est celle-ci. Et donc on est déjà au travail. On a des réunions. Je vais encore à Montpellier demain pour parler de tout ça. On a eu des réunions régionales. Voilà, pour qu'on ait une vision globale. Et puis bien évidemment, les Lozériens, même si c'est loin, même si Toulouse c'est loin, on ne doit pas laisser notre place. On a toujours trop souvent dit Montpellier c'est loin, laissez un peu notre place. On ne doit pas laisser notre place, on doit être des chefs de file, et on doit être originaux, parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, c'est pas par le nombre, c'est pas comme les Aveyronnais, qui sont 7000, hein, je vous le rappelle, 7000 agriculteurs, 8000 agriculteurs, nous 2000 en Lozère. Donc, de temps en temps, on dit l'Aveyron et la Lozère, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil, d'ailleurs.
Et on va essayer d'augmenter les salaires des agriculteurs lozériens. On l'a dit, c'est les plus bas de France. Ça aussi, c'est vraiment un combat. Il va falloir faire quelque chose. Hein.
Oui, là, c'est tout à fait ça. Il faut augmenter. Il y a plusieurs choses à voir. La structuration des filières, l'autonomie des exploitations, la meilleure valorisation des produits, l'ICHN. Voilà, c'est tout le panel de choses qu'on essaye de trouver pour aider les agriculteurs à mieux s'en sortir.
Alors vous êtes un syndicat actif, on l'a dit, vous avez reçu dernièrement la session nationale ovine à la Canourgue.
Oui.
Il y a eu les journées laitières à Aumont, beaucoup d'animation aussi dans votre syndicat.
Alors les journées laitières, c'est la Chambre d'agriculture qui les organise, mais bon, je suis tout à fait à l'aise puisque je suis vice-président de la Chambre d'agriculture. Mais et après, il y a eu la session ovine, nous recevons également ces jours-ci nos amis de Haute-Marne, de Marne et de Haute-Marne.
J'allais le dire, on écoutait en Haute-Marne peut-être aujourd'hui.
Voilà, alors je vais les rejoindre tout à l'heure. On a les agriculteurs de Haute-Marne qui viennent quelques jours en séminaire en Lozère pour évoluer. Ils ont chez eux un projet de construction d'un parc national, un petit peu comme le parc des Cévennes. Donc ils viennent voir chez nous l'impact que ça peut avoir sur les agriculteurs au quotidien. Et donc nous avons fait tout un programme avec notamment les élus du parc. Nous allons voir les agriculteurs du parc, la chambre d'agriculture. Voilà, puis des moments un peu plus de convivialité. Et donc on les accueille pour quelques jours à Lozère. Alors c'est une habitude qu'on a puisqu'on a accueilli tous les agriculteurs qui faisaient la session ovine. Tous les responsables agricoles nationaux de la production ovine à la Canourgue. Nous avions fait d'autres sessions de formation. Notre objectif, quel est-il? Il est que de dire, voilà, c'est toujours le même système. On est les plus petits, donc c'est pas en disant, nous, on a 10 000 paysans. Il faut qu'on soit originaux, il faut qu'on se montre, il faut qu'on trouve des solutions pour être entendus.
D'accord. Pour terminer cette partie, la prochaine animation que vous proposez ou le prochain rendez-vous, c'est quoi?
Alors, on va être présent sur bon nombre d'événements. On va être présent à la Transhumance à Bonnecombe la transhumance des troupeaux au braque le 25 mai. On est présent sur, moi je n'ai pas le calendrier en tête, mais je crois qu'on est présent sur une vingtaine d'événements durant l'année, concrets ou qu'on fait en partenariat. On a prévu des animations aussi pendant le passage du Tour de France pour que l'agriculture lozérienne soit mise en valeur. On va être partenaire du Marvejolman, je crois aussi. Donc c'est des animations qui dépassent un petit peu l'agriculture, mais je crois que montrer l'intérêt de l'agriculture auto, on ne doit pas rester agricole, et c'est bien notre objectif aux jeunes agriculteurs, de montrer tout le panel et tout l'intérêt de l'agriculture pour toute la société.
Julien Tuféry, merci.
Merci
on à va, vous. On va vous laisser aller au pont de Montvert partir, on retrouvera donc Stéphane Salva dans la seconde partie de l'émission, juste après une petite pause musicale.
FM Le Mag. Bonjour, voilà, on est de retour dans ce mag. Donc après avoir parlé agriculture avec Julien Tuféry des jeunes agriculteurs, on va parler un petit peu sport en compagnie de Stéphane Salva qui est donc délégué départemental de l'UFOLEP. Donc l'UFOLEP, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Donc bonjour Stéphane déjà.
Rebonjour.
Rebonjour. Eh bien oui, on se quitte plus. Alors, est-ce que tu peux commencer tout simplement par te présenter, enfin surtout présenter ton rôle au sein de l'UFOLEP.
Ouais. Alors l'UFOLEP, comme tu l'as dit, c'est un sigle, hein, donc je ne vais pas répéter ce que tu as dit. C'est l'UFOLEP, c'est une fédération sportive, comme une autre fédération sportive, sauf que celle-là, elle n'est pas délégataire, elle est affinitaire. Et la deuxième grosse particularité de l'UFOLEP, c'est qu'elle est multisport. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de l'UFOLEP, on trouve des footeux, des montards, des gymnastes, des coureurs à pied, des cyclistes, des gens qui font de la capoeira, des gens qui font des raids, du ski, etc., etc. Donc, multisport, en prenant une licence UFOLEP, on peut donc pratiquer plusieurs activités sportives. Donc, fédération sportive de la Ligue de l'Enseignement. Donc, la Ligue de l'Enseignement commence à être un petit peu connue, mais pour ceux qui connaissent peut-être un peu mieux, la Ligue de l'Enseignement, c'est la FOL, en fait, la Fédération des œuvres laïques, qui a changé de nom. Donc, l'UFOLEP, c'est la Fédération sportive de la Ligue de l'Enseignement.
Et affinitaire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence?
Une fédération délégataire, qui n'est pas notre cas, est déléguée directement par l'État pour gérer un sport. Hein. Je prends toujours un exemple, la FFF, Fédération française de football, qui est déléguée par l'État pour gérer le foot en France, qui va mettre en place les règles du foot, etc., etc. Et donc nous, en tant que fédération affinitaire, on s'affilie chez nous par affinité, enfin par esprit plutôt, pour respecter nos idées, notre esprit. Mais par contre, nous, quand nous mettons en place du foot, par exemple, pour garder la comparaison, nous devons nous en tenir aux règles édictées par la fédération délégataire. Pareil pour la moto, pour la gym, etc.
D'accord. Est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques chiffres de l'UFOLEP en Lozère?
Alors, l'UFOLEP en Lozère, donc au niveau des chiffres, ces derniers temps, ça, on va dire que ça fait un petit peu, pas l'Everest, mais bon, le Mont Blanc au moins. Donc au niveau des associations, en gros, il y a 5 ans, on était aux alentours de 65, 66 associations. Ça s'est maintenu et ça a chuté brutalement ces deux dernières années. Nous ne sommes plus qu'à 45 associations, bien que cette année, ça reparte légèrement à la hausse. Je crois qu'on est déjà à 47 ou 48. Donc, les associations ont chuté. Et au niveau des licenciés, ça fait pareil. Il y a 5 ans, donc, nous étions environ à 2300 licenciés. Nous avons chuté l'année dernière jusqu'à en avoir plus que, mais il en reste encore pour une fédération lozérienne, c'est pas mal, 2100. Et nous étions passés par un pic, c'est pour ça que je parlais de Mont Blanc, par un pic à 2600, presque 2700 licenciés. Voilà. Alors, bon, tout simplement.
Oui, comment on peut expliquer
Voilà, c'est là où je veux en venir. Tout simplement, cette chute, que ce soit en termes d'association ou en termes de licenciés, ils sont à peu près tous dus à la chute des sports mécaniques. En fait, l'UFOLEP mettait en place un championnat Lozère de moto, hein, qui comprenait des courses d'enduro, de prairie, d'endurance, destinées aux adultes, aux enfants, et mettait aussi en place un championnat de gymkhana, hein, ça se passait surtout dans le nord de la Lozère et à Mende sur la place du Foirail, et tout ça, il n'y en a plus en Lozère, voilà, dû en grande partie aux réformes des assurances actuelles qui ont fait exploser les prix des assurances, aussi bien pour la licence que pour l'organisation de l'épreuve. Donc les licenciés ne prennent plus de licence et les associations ne font plus d'épreuve.
C'est exagéré pour vous, ces augmentations, ou c'est compréhensible?
Alors, tout est compréhensible, hein. On peut pas comme ça jeter la pierre à tout le monde, hein. De toute façon, s'ils ont augmenté on sait comment les assurances marchent, s'ils ont augmenté les cotisations, c'est qu'il y avait besoin de récupérer des sous parce qu'il y avait sûrement des gros accidents ou des indemnités à verser, etc., etc. Par contre, ce qui n'a pas été pris en compte au niveau, je parle là pour l'assurance qui s'occupe de l'UFOLEP en tout cas, ce qui n'a pas été pris en compte, c'est le caractère de nos courses ici, qui est plus tourné vers l'enduro, en fait très peu accidentogène, et ils ont tout tourné ce système d'assurance vers le motocross qui est beaucoup plus accidentogène, mais très très peu répandu en Lozère. Voilà. Donc, ils n'ont pas tenu compte. Ils l'ont tenu pour le trial, qui a un petit peu mode de à part, mais ils n'ont pas tenu compte du fait que nous, on faisait beaucoup d'enduro.
D'accord. Mais j'ai vu que l'UFOLEP couvrait à peu près 85% du territoire. Est-ce que ça veut dire que vous avez des associations affiliées de tout le territoire, ou est-ce que ça veut dire que vous menez des actions un peu partout
Alors, ça veut dire les deux, mais ça veut dire surtout qu'on a des associations affiliées qui viennent d'à peu près tout le territoire lozérien. Alors malgré la baisse des licenciés et des associations, nous restons encore très implantés dans tout le territoire lausérien. L'UFOLEP est bien une association, une fédération départementale, et bien que basée à Mende, travaille sur tout le territoire, quasiment sur tout le territoire lausérien. Alors, cette implantation aux quatre coins du territoire est surtout due aux écoles de foot. Voilà, les écoles de foot qui sont présentes dans la, pas dans tous les villages ou toutes les communes, mais dans beaucoup de villages et beaucoup de communes à travers tout le département. Voilà.
Le foot, c'est le sport vraiment le plus représenté au niveau des associations.
Ah là, on l'a, le foot depuis que la moto a baissé, alors qu'ils étaient à peu près équivalents avant la chute de la moto. Le foot est le sport numéro un actuellement en termes de licenciés et de nombre d'associations à l'UFOLEP assez largement.
Oui, c'est intéressant de savoir ça. Il y a quoi comme sport qui attire les jeunes chez vous? Il y a le foot, après il y a quoi?
Alors, le foot reste le sport numéro un à l'UFOLEP, en sachant que nous ne gérons que le foot, les écoles de foot, les enfants, et un petit championnat de foot vétérans les plus vieux. Tout ce qui est au milieu, c'est pas géré par nous. Voilà. Ce qui attire pas mal les jeunes aussi actuellement, un autre sport qui est très représenté à l'UFOLEP, alors je veux pas être sexiste, mais surtout pour les filles, c'est la gym, mais la gym sportive, hein, les agrès, cheval d'arçon, barre fixe, etc. Donc, et ce qui commence à se développer de plus en plus et qui ils viennent souvent chez nous aussi, c'est un petit peu ce qui est sport de nature. Qui commence à se développer de plus en plus, et que ça part du VTT, le trail, le ski, la spéléo, etc. Et aussi les, moi j'appelle ça, je sais pas trop comment les, je vais les mettre dans le même panier, mais peut-être ils seront pas contents, mais les, pas les nouveaux sports, mais en tout cas de type capoeira, où on a une grosse association de capoeira qui est affiliée chez nous. Et aussi, alors c'est pas forcément peut-être pour les jeunes, mais une autre association qui marche bien, qui fait du Qigong. Me demandez pas complètement ce que c'est, je vous l'expliquerai très mal, mais oui, je crois que c'est un...
Ça se rapproche du yoga, en fait.
Voilà, c'est une sorte d'art martial qui se rapproche du yoga. Voilà, ouais. J'espère que je fais pas hurler.
Non, mais je crois qu'elle en fait, Julia. Tu en fais, non, du Qigong?
Non, mais...
Non. Ou du cheval d'arçon?
Du cheval... Ouais, non. Okay, merci. Ouais, là, c'est la danse, ou rien.
Ouais. Ok.
D'accord, donc c'est pas que des sports de... Pour moi, en fait, l'UFOLEP, c'était les sports de compétition. Et donc, en fait, ça peut être n'importe quelle association.
Oui, alors surtout pas en plus de compétition. Normalement, l'idée première de notre fédération, par opposition aux fédérations délégataires, sans avoir d'a priori, je ne suis pas en train de critiquer les fédérations délégataires, chacun, pas son boulot, mais en tout cas chacun son coin. L'UFOLEP, normalement, il doit y avoir la compétition, parce que quelque part, ça... Mais on est d'abord pour faire du sport à tout le monde. Voilà. Donc c'était ça qui était bien dans la moto. On se mettait pas du tout en concurrence avec la FFM parce que les bons, les champions, ils venaient un petit peu s'entraîner avec nous, puis ils allaient faire leur grosse compétition à FFM. Mais nous, on permettait à tous les gars qui avaient une moto, qui au lieu d'aller rouler le dimanche pas en faisant n'importe quoi, mais ce qui se passe un peu maintenant comme ça en freestyle, eh ben venaient faire une compète avec nous. Parce que c'était pas cher et parce qu'on s'amusait et parce qu'on trouvait des gens à notre niveau. Ils peuvent plus aller, ceux-là, ils peuvent pas aller faire des compétitions à FFM. D'une, parce qu'ils ont pas les moyens. De deux, parce qu'ils vont pas aller à Perpète les faire. Et de trois, parce qu'ils auront pas le niveau, sans être péjoratif. Donc, l'UFOLEP, justement, c'est ça. C'est des compétitions, oui, quand il le faut, sur certains sports. Mais c'est pas l'idée première ni la recherche première, la compétition.
On reste sur les valeurs de la Ligue de l'enseignement. Éducation pour tous, sport pour tous.
Voilà, on essaie vraiment d'être sur les valeurs de la Ligue d'enseignement. Alors, bien sûr, des fois, il y a des excès dans certains sports ou autres. Mais dans l'ensemble, dans Lozère, on est quand même assez préservé de ce genre d'excès. Et ça se passe plutôt bien, en général.
Donc on parlait de foot tout à l'heure, qui était un des sports les plus représentés. Il y a la semaine dernière, je crois, il y a du 13 au 15, il y a eu... Non, c'était un peu plus longtemps
que ça. C'était un petit peu plus longtemps, oui.
Je ne vois plus le temps passer. Du 13 au 15 avril, il y a eu donc un stage de foot qui était porté par l'UFOLEP. Ça s'est bien passé, il y a eu du monde.
Ouais, alors cette année on a essayé de lancer ça parce qu'on avait déjà mis en place, l'UFOLEP met en place plusieurs stages ou séjours, hein, donc notamment en hiver en collaboration avec l'UCEP, qui est une autre fédération de la Ligue de l'enseignement, mais là qui est pour le sport scolaire, hein, dans les écoles publiques. Nous mettions ensemble en place un stage de ski ski de fond, c'est-à-dire ski en Lozère. Ski de fond, raquette. Si des fois il n'y avait pas de neige, on faisait des APPN, hein, activité physique de pleine nature. Au mois d'août, à Bec de Jeu, il y a aussi un stage de perfectionnement de gymnastique sportive depuis de très nombreuses années. Je ne saurais vous dire, mais ça fait très très longtemps, ça doit faire 20 ans, peut-être même plus, qui est un stage régional, mais qui se passe aussi très bien, avec une bonne ambiance, ça permet de se retrouver hors compétition, justement. Des stages de foot UFOLEP existaient il y a déjà plusieurs années. Hein. J'y ai participé moi-même en étant jeune. Et sans être, voilà, j'allais me la faire à moi tout seul, hein, sans être très vieux, il y a déjà un petit moment. Et donc, on s'est lancé, on a dit, on va essayer de le relancer, de le retester, et on verra bien ce que ça donne. Et finalement, on s'est retrouvé avec 61 enfants inscrits, voilà, venus de 7-8 clubs du département. Et on a organisé ça sur 3 jours. Donc on l'a organisé, on a pris l'option parce qu'on avait plusieurs options. On le fait en internat, on le fait en externat, on le fait en demi-pension. Enfin bref, pour pas en trop en demander aux bénévoles, hein, que j'en parlerai tout à l'heure si j'ai le temps. On a décidé de le faire sous forme de demi-pension. Les parents nous les amenaient le matin et les récupéraient le soir. Voilà, ça c'est un petit peu moins long, un petit peu moins chargé. Et la grande chance qu'on a eue aussi, c'est qu'on a eu 3 jours magnifiques. C'était la première semaine des vacances de Pâques. Et si vous vous rappelez bien, il a fait très très beau, voire trop chaud. Mais bon, on va pas toujours se plaindre.
Ouais. 60 enfants, c'est bien, hein, c'est même beaucoup, je trouve.
Ouais, 61 enfants par rapport à ce qu'on propose, par rapport au nombre de licenciés, par rapport à ce à quoi on s'attendait. On avait dit qu'on se tablait, on s'arrêtait à 48. Mais comme j'ai toujours eu du mal à dire non, et qu'il y a toujours eu du monde qui m'a dit, bon, mais on viendra aider, on viendra donner un coup de main, etc., etc. Donc, on a refusé personne. Voilà.
Et donc, c'était quoi? C'était des rencontres? C'était des entraînements,
voilà. Alors on a essayé de varier les plaisirs, hein. On a fait donc un stage foot. On le lundi matin, on s'est découvert sous forme de tournoi, hein, des mini matchs, c'est-à-dire qu'on faisait du 4 contre 4, voilà, pour les initiés. Donc on avait deux catégories, des U9, c'est-à-dire c'est des CE1, CE2, des 8-9 ans, et des U11, c'est des CM1, CM2, des 10-11 ans. Donc c'est pour ça qu'aussi ça faisait du monde, 61 enfants, parce qu'on s'était ciblé que sur deux catégories d'âge en plus. Hein. Les après-midi, lundi après-midi, mardi toute la journée et mercredi matin, on a fait des entraînements. Hein. On a essayé de varier le plaisir. Mercredi matin, on est même arrivé, grâce à l'aide d'un de nos intervenants, à faire des spécifiques goals, spécifiques attaquants, voilà. Donc les enfants ont découvert une autre façon de s'entraîner aussi. Donc c'était important. Et en plus, on leur a apporté des petits plus. Bon, on a fini aussi le mercredi après-midi par un grand tournoi où on a formé des équipes avec nos stagiaires, où on avait invité d'autres clubs, donc l'AFL qui a pu former des équipes, Marvejol, la STT Pont, Florac Pont de Montvert, qui nous ont rejoints pour faire un grand tournoi et finir le tournoi sous forme plus ludique. Voilà. On s'était aussi dit, on va pas faire que du foot. Parce que à y être, à faire un stage foot, on va essayer de voir d'autres choses. Donc, on leur a proposé à tous, ils ont tous fait au moins une session de spéléologie. Voilà. Donc, ils ont découvert les grottes, la spéléologie. Et je vous assure que pour ceux qui y sont allés, ils étaient bien dans les grottes. Au moins, ils ne couraient pas, ils ne transpiraient pas au soleil. Donc, ils étaient très bien dans les grottes, ils se sont régalés. Tout le monde est rentré, tout le monde est ressorti. Donc, ça va, on n'y a laissé personne dedans. Et on avait aussi proposé des petits ateliers en début d'après-midi, puisqu'on rentrait, on allait manger au centre de Bec de Jeu. Hein. Des petits ateliers en début d'après-midi pour avoir quelques notions d'arbitrage. Donc, avec un intervenant, Laurent Coulon, qui est arbitre officiel, qui est intervenu. Et des petits ateliers sur l'alimentation, la santé, quelques notions pour commencer à appréhender un petit peu l'alimentation du sportif. Donc avec Laurence Robert Dubois. Voilà. Et en plus, sur ces petits ateliers, puisqu'il fallait faire 4 petits groupes, on leur a fait découvrir du tir à la carabine laser et le tambourin, le sport, le tambourin, pas la musique, mais le sport, le tambourin.
Je crois que je vais m'inscrire au stage de foot, moi, l'année prochaine.
Ouais, c'est bien, ça, d'élargir un peu les propositions sur un stage de foot qu'on peut penser cibler uniquement sur ce sport.
Alors, bon, c'est plusieurs choses qui nous ont amené à faire ça. Déjà, sans vouloir sans vouloir être trop, comment dire, on a l'habitude, quoi. On a un petit peu l'habitude. Comme je vous l'ai expliqué, c'est pas les premiers stages qu'on fait. Donc, on se fie à ce qu'on a l'habitude de faire et ce qu'on sait qui, en général, marche. Donc, faire que du foot toute la journée, d'une, ça peut être lassant, même pour un passionné. Donc, c'était bien de leur ouvrir à autre chose. Mettre un petit peu de pédagogie, c'est aussi notre philosophie. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, du sport pour tous et puis du sport citoyen. Et voilà, donc mettre aussi un petit peu de pédagogie en ce qui concerne l'arbitrage, le respect des uns, des autres, des règles, les expliquer, toutes ces règles,
c'est important pour les jeunes.
C'est important pour les jeunes parce qu'on s'adresse aux futurs joueurs. Donc c'est maintenant qu'on peut. C'est plus un vieil adulte déjà tout formaté qu'on va apprendre et qu'on va changer. Donc notre philosophie. Ensuite, il y a aussi des aspects météorologiques. Donc en diversifiant l'offre, on se préserve aussi de soit il fait trop chaud pour faire du foot toute la journée, soit il pleut toute la journée. Des fois, on est bien content aussi d'avoir d'autres activités à faire. Voilà.
D'accord. Donc on a dit foot et gym aussi, qui est un sport très représenté à l'UFOLEP. Bientôt, il y aura les challenges.
Le challenge.
Challenge à l'américaine.
Non, en français.
Régional de gym à Marvel Jaws.
Voilà. Donc, pas plus tard que le week-end qui arrive. Hein. Donc, samedi, dimanche, là, 9 et 10 mai. Donc là, de toute façon, on arrive sur la période UFOLEP, sur la période sport.
Oui, ça y est, ça va. Voilà,
c'est la période, c'est toutes les fédés sportives, c'est maintenant que ça arrive, hein, les épreuves, tous les trucs, c'est mai-juin. Donc 9 et 10 mai, le challenge régional gym, donc qui a lieu à Marvejols. Alors juste là aussi, encore une fois, ce challenge, il illustre bien la philosophie. L'esprit de l'UFOLEP, puisqu'en fait, c'est une épreuve qui a été mise en place il y a, pareil, pas mal de temps, par l'UFOLEP pour permettre aux équipes qui faisaient le championnat départemental puis le championnat régional, il y a un certain quota d'équipes qui sont qualifiées pour aller faire les finales nationales, les demi-finales, les interrégions, voilà, tout ce qui se passe après. Et il y a un certain quota d'équipes prises. Toutes les autres, une fois qu'elles ont fait le championnat départemental et le championnat régional, se retrouvent sans rien. Et en fait, ce challenge régional, c'est un truc qui a été mis en place en plus, régionalement, mais que par notre région. Donc c'est propre à notre région, pour les équipes qui n'étaient pas qualifiées. Voilà. Alors on n'exclut pas les équipes qui sont qualifiées, mais si elles viennent au challenge régional, elles peuvent y participer, mais doivent s'inscrire dans la catégorie supérieure à la leur, en fait. Elles peuvent, si elles sont à un certain niveau, il faut qu'elles s'inscrivent à un niveau au-dessus. Mmh. Voilà.
Donc tu dis elles, il n'y a pas du tout de garçons.
Alors, en challenge régional, il y a des garçons. Ça commence à s'ouvrir aux garçons. Il n'y en avait pas du tout en Lozère jusqu'il y a quelques temps. Et ça commence à s'ouvrir aux garçons. Je crois que c'est à Saint-Chély qu'ils ont ouvert un groupe de garçons. Parce que le problème n'est pas que... Et n'est pas vraiment qu'ils ne veulent pas les garçons ou autres, mais pour les garçons, d'une, il faut avoir quelqu'un capable de les coacher, et il faut avoir les équipements pour. Parce que les garçons ne font pas tout à fait les mêmes choses que les filles. Ils font des agrès que les filles ne font pas, et les filles font des agrès que les garçons ne font pas. Donc c'est un petit peu la problématique. Voilà. Et donc du coup, il faut qu'on prenne du matériel qu'il y a au gymnase de Mende pour les garçons, pour l'amener pour ce week-end au gymnase de Marvejols pour que les garçons puissent avoir leurs agrès.
Combien de participants à peu près ?
Alors là, sur le week-end, je vais faire de l'à peu près, mais je ne devrais pas être loin de la vérité, c'est à peu près 300 participantes. En gros, ce genre de manifestation, voilà, sachant que ça vient d'un petit peu toute la région, mais pas de toute la région. Hein. La gym en UFOLEP est très très répandue. Rien qu'en Lozère, nous, on a en gros un peu plus de 300 licenciés en gym. Et on est un petit département, on n'a que 3 clubs. Hein.
Vous êtes combien à travailler sur un événement comme ça ? Excuse-moi, Julien.
Alors, l'événement comme ça, il est co-organisé par le comité régional UFOLEP, le comité départemental UFOLEP et le club de Marvejols. Voilà. Alors, ceux qui font le gros du travail, le travail un petit peu de qui se voit le moins, en tout cas, c'est le club de Marvejols, de la gymnastique sportive de Marvejols. Donc là, il va y avoir, je sais pas, moi, 10, 15, peut-être 20 bénévoles qui vont se, se relayer. Il va y avoir les personnes du comité régional, on va dire les ceux qui gèrent la compétition elle-même, hein, de la c'est ceux de la commission régionale de gym qui vont gérer la compétition. Et puis le comité départemental avec quelques bénévoles va aussi s'occuper de donner un coup de main, notamment là je vous disais pour amener le matériel, pour amener ramener le matériel, voilà, faire du travail comme ça. Ouais, il y a au moins 20-25 bénévoles sur un rassemblement comme ça. Oui. Sans compter, excuse-moi, Ludo, sans compter, en gym, il faut des juges. Il faut des juges aussi. S'il n'y a pas de juges, il n'y a pas de compète. Et des juges, c'est des filles. En fait, les filles, une fois qu'elles ont un certain âge, elles sont, pour pouvoir le club, pour pouvoir participer à des compétitions, il est obligé de présenter un certain nombre de juges, en fait. Voilà. Donc, il faut aussi compter les juges.
Tu parlais des bénévoles, justement. Là, tu viens d'en parler. C'est l'occasion de les mettre en lumière. Vous marchez beaucoup, j'imagine, comme toutes les associations, avec des bénévoles.
Et ouais, parce qu'en fait, on n'est qu'une association. Et sans les bénévoles, il n'y aurait pas grand-chose. Il n'y aurait pas grand-chose. Et je pense que tous ceux qui dirigent une association le savent aussi bien que moi, hein, parce qu'on n'est ni plus ni moins qu'une association de loi 1901. Et on travaille avec d'autres associations. Mais le bénévolat en Lozère n'est pas mort encore, hein. Il y a encore pas mal de monde qui s'investissent, hein, pour leur passion, pour leur sport. Le stage de foot, j'y reviens dessus, juste pour le souligner, a été encadré par donc moi-même, mais aussi par 7 bénévoles. S'il n'y avait pas été, soit il n'y aurait pas eu de stage, soit le coût qu'on a proposé aux enfants n'aurait pas été le même. Hein. Le coût qu'on a proposé aux enfants pour 3 jours n'était pas du tout élevé. S'il avait fallu prendre et salarier quelqu'un pour 3 jours, ça aurait été le double, voire le triple. Donc les bénévoles, très importants. Même pour un challenge régional comme ça, sans bénévoles, il n'y aura rien.
Et cet événement, c'est ouvert au public. Est-ce qu'on peut aller voir la gym comme on va aller voir un match de foot le dimanche ?
Oui, on peut aller voir la gym comme on peut aller voir un match de foot le dimanche. C'est pas le même sport. Non. Donc, pour ceux qui pourraient être intéressés, ça se déroulera donc à Marvejols, au gymnase de Marvejols. Mais attention, parce qu'à Marvejols, il y a le grand gymnase où il y a la salle de hand et tout ça, qui s'appelle le Ranquet. Donc, qui est au fond de l'esplanade. Le gymnase de gym, lui, il n'est pas au fond de l'esplanade. Il est de l'autre côté, au milieu de l'esplanade, à côté de la maison pour les jeunes, je crois. Voilà, il est vers là. Et il devrait y avoir aussi une petite, un petit plus qu'on a fait encore cette année, qui illustre toujours un petit peu l'idée de l'UFOLEP, c'est qu'on a donc une salariée du comité régional UFOLEP qui va monter samedi. Et qui va proposer aux jeunes gymnastes et peut-être à d'autres curieux une nouvelle activité sportive. Normalement, s'il fait beau, elle devrait faire ça samedi sur l'esplanade. Donc, il s'appelle le chukball.
Qu'est-ce que le chukball ?
Alors, le chukball, personne ne connaît. Bon, dans l'esprit, ça ressemble pas mal au handball. Voilà, sauf qu'au lieu de marquer dans des buts, on doit lancer son ballon sur un trampoline et un de nos coéquipiers doit le récupérer. S'il arrive à le récupérer, il y a un point. Si la balle tombe à terre, il n'y a pas de point. Et si elle est interceptée, il n'y a pas de point. Et voilà. Il y a deux trampolines de chaque côté d'un terrain qui ressemble à un terrain de hand, mais il n'y a pas de camp. C'est-à-dire qu'on peut attaquer sur l'un ou l'autre. C'est un sport, on va dire, assez physique. Pas forcément très technique, mais très tactique, en tout cas. Voilà. Donc à découvrir aussi donc samedi, ce sera le samedi 9.
Ça sort d'où ça, ce sport ? C'est intéressant.
Alors exactement d'où ça sort, je ne te répondrai pas. Par contre, moi je l'ai découvert sur un de nos autres événements qu'on fait à Port-le-Cat tous les étés, le Playa Tour, où on propose plein de nouveaux sports comme ça. Peut-être on en parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà, donc on l'a découvert là et on avait le choix soit proposer de la marche nordique, soit du tchoukball. L'avantage du tchoukball, c'est que dans notre département, encore au mois de mai, on ne sait pas trop ce qu'on va avoir comme météo, donc on pourra se mettre dedans au cas où.
Mais justement, tu parlais du Playa Tour à Port-le-Cat, donc du 7 au 10 juillet, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le Playa Tour à Port-le-Cat, c'est un mini-séjour. Un mini-séjour qu'on propose donc à certaines structures, pas forcément affiliées à l'UFOLEP, hein, parce qu'on le propose, nous. En Lozère, on le propose au service jeunesse des mairies, souvent. Donc, Mende avec l'Antirouille, ça fait maintenant 3, 4, peut-être 5 ans même qu'ils viennent tous les ans. Cette année, nous sommes en train de voir avec d'autres mairies, voilà, pour éventuellement accueillir un deuxième groupe. Voilà, sachant que c'est un événement régional, celui-là aussi, et qui est très prisé, donc les places sont chères. Voilà, donc la Lozère, on a 50 places, et c'est souvent compliqué d'en avoir d'autres.
Les places sont chères, elles sont recherchées parce qu'elles sont pas vraiment chères.
Les places, oui, exact. Les places sont recherchées, sont demandées, mais elles ne sont pas chères, non. Non, parce qu'on fait un séjour de cette année, il va être de 4 jours exceptionnellement parce que tout le monde est en demande d'y rester 4 jours. Parce qu'en fait, dans les séjours, les 3 jours, on dit souvent, au bout du 3e jour, les gamins, ils commencent à savoir dans quel ordre il faut faire, comment ça marche, ça commence à rouler, pop, il faut rentrer à la maison. Donc, on est passé sur du 4 jours. Et les 4 jours, donc avec 3 pensions complètes, 3 nuits, etc., 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 je crois qu'on est aux alentours de 140 euros ou quelque chose comme
avec
ça.
Avec le trajet.
Alors le trajet en plus.
Ah, c'est en plus. C'est du 7 au 10 juillet exactement.
Oui, la première semaine des vacances.
D'accord. Il y a beaucoup d'animations hein, pendant ce séjour. Hein.
Ouais.
On en avait parlé une fois.
Oui, je crois qu'on en avait déjà parlé. Il y a énormément d'animations. Donc on est sur la plage à Port-le-Cat. On accueille en gros entre 500 et 600 enfants de toute la région. Hein. Donc c'est un truc, c'est énorme. Voilà. Beaucoup de piges, des ALSH, enfin des structures comme ça qui accueillent les enfants, des centres de loisirs, etc. Donc on propose tout ce qui est sport de plage, sport collectif, beach soccer, beach rugby, beach hand, enfin ça s'appelle le sandball, du volley, du beach volley, tous ces sports comme ça.
Et du tchoukball.
Du tchoukball, voilà.
Du tchoukball sur sable.
Très intéressant, très fatigant aussi. On propose aussi des baignades. Hein. Alors c'est compliqué parce qu'on est à la plage et là aussi la réglementation pour les baignades, on ne peut pas faire n'importe quoi, donc il faut que ce soit encadré. Donc il y en a souvent pas assez pour les participants, mais on ne peut pas faire autrement. Sachant qu'on accueille en plus à partir de 7 ans, de 7 à 17 ans, donc on a un panel très très large. La réglementation n'est pas tout à fait la même pour tous les âges. Bon, on va pas rentrer dans les détails. L'an dernier, on a même proposé du paddle. Hein, donc,
Julia est fan de paddle. Elle est très forte au paddle.
Donc le paddle, pour ceux qui connaissent pas, c'est la planche à voile debout avec une rame. Hein. Bon, en gros, pour simplifier, hein, ça, si vous visualisez.
C'est ça. C'est à la mode, ça, hein, le paddle. Hein. Moi, je suis allé au Pays Basque. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en font.
Voilà, donc on essaie d'être à la mode, de suivre un petit peu les tendances et les demandes des uns et des autres. Donc oui, on a proposé ça. On propose aussi, pour vous donner une idée de la diversité, on a même proposé, suivant les années, de l'aïkido, de la lutte, du tambourin. Qu'est-ce qu'on propose encore? On a même, une fois, on a tenté de la pétanque, puisqu'on était dans le midi, du golf de rue, donc qu'on faisait à l'intérieur du centre, très sympa aussi, de l'initiation au cerf-volant. Et puis des activités aussi qu'on va dire un petit peu plus pédagogiques là aussi, hein, de la gendarmerie de Perpignan souvent qui monte et qui nous tient un atelier de prévention de certains risques liés à Internet ou autres, de lutte contre les discriminations, voilà, et sur les maladies aussi sexuellement transmissibles, voilà, beaucoup aussi de d'ateliers éducatifs.
Quand on divise par le prix par le nombre de la journée, ouais, c'est extrêmement bas comme prix. Hein, quand on connaît les tarifs pour aller justement à Port-le-Cat, etc. À titre individuel, ouais,
c'est très bas. Surtout qu'ils n'ont pas beaucoup de temps pour rien faire, quoi. En fait, on les prend dès le matin. Ils vont déjeuner. Ils ont des activités le matin de 10h à midi. Des activités toute l'après-midi. Ils ont un petit peu de temps libre, souvent là, en fin d'après-midi, pour aller en gros se doucher, venir manger. Et on fait des soirées. On anime aussi des soirées. Où on fait souvent une soirée bon classique, une soirée pas disco, boum, enfin bon bref comme ça, et on fait souvent une soirée et oui parce qu'ils la demandent tous les enfants. Donc,
mais ils ont raison.
Voilà, il la faut aussi.
Julia la demande des fois à la radio. t'inquiète pas.
Pendant la petite roulotte, là j'ai demandé, ils m'ont fait une caravane, c'était la boum tous les jours.
Et ouais, tu vois. Ouais.
Et il en faut bien. De toute façon, il en faut. Moi, je suis pas contre, hein, mais c'est la boum pour des enfants de 7 à 17 ans, c'est pas perçu pareil pour tous les enfants, donc c'est un petit peu compliqué des fois, mais bon. Et après, on fait une super soirée aussi où on fait intervenir des associations UFOLEP qui viennent nous faire des démonstrations de leur boulot en termes de danse en général, et notamment qui viennent depuis 3-4 ans une association des PO, des Pyrénées-Orientales, qui est venue l'an dernier dans le cadre du festival 48e de rue en off et qui s'appelle Trampoline 2000. Voilà, ça fait plusieurs années qu'ils interviennent, donc on voit leur travail. Et c'est aussi une association IFOLEP, donc voilà.
C'est ouvert aux enfants de 7 à 17 ans alors ?
De 7 à 17 ans, mais on ne peut pas s'inscrire individuellement. Il faut s'inscrire par une structure et notamment... Alors,
par les mairies. Donc tu
voilà, par les mairies, par les services jeunesse des mairies qui sont dans ce séjour. Et notamment, je crois que l'Antirouille Amande, je ne sais plus si c'est l'an dernier ou il y a deux ans, boucle les inscriptions en une après-midi, je crois.
Mmh, oui, c'est extrêmement rapide.
Non, mais j'imagine, oui. Mmh. Bon.
C'est du 7 au 10 juillet, mais en attendant, il y a encore d'autres manifestations prévues.
Ouais, je veux, si j'ai le temps de faire un petit tour sur le calendrier à venir, je veux bien le faire un peu rapidement. Donc, ce week-end, le challenge régional gym, et après plusieurs dates qui concernent les autres sports. Donc, le 30 mai, il y aura la Coupe des écoles de foot concernant les U7 et les U11 à Saint-Alban, organisée par le club de l'ENL, la DDFL et le comité départemental du FOLEP. Le 13 juin, pareil, la Coupe des écoles de foot, mais ce coup-ci pour les catégories U9, U13 et U16 à Marvejols Sport, organisée par Marvejols Sport, la DDFL et du FOLEP. Le 14 juin, le rassemblement des écoles de moto à Saint-Chély, organisé par le motoclub de Saint-Chély, les trois autres motoclubs et du FOLEP. Il y a encore un petit peu de moto en UFOLEP et notamment les écoles de moto qui sont encore fidèles et ça concerne 150 à 200 enfants encore. Et le 14 juin, le même jour, il y aura la course de kart cross de Villefort qui est inscrit à un challenge interrégional. Donc le 7 au 10 juillet, le Playa Tour et le 16 au 22 août, le stage régional gym avec deux jeux. Voilà pour les principales dates à venir.
D'accord. Pour se renseigner, il y a un site internet, un numéro de téléphone.
Pour se renseigner, il y a un site internet, www.fol48.fr. Il y a un onglet UFOLEP avec, voilà, il faut suivre après. Maintenant, tout le monde connaît un petit peu. Numéro de téléphone, je sais pas si je peux le donner
ou
04 66 49 00 30.
Voilà, vu qu'on était dans les dates, c'est quand ton spectacle de danse à Badarou, Julien?
Alors, je n'ai pas de spectacle de danse à Badarou, j'ai un spectacle de danse à Mende et un spectacle Amande, de danse à Marvejols.
C'est quand Amende qu'on l'annonce à nos auditeurs s'ils veulent venir te voir?
C'est le 30 mai.
Le 30 mai.
Ah, le même jour, ils peuvent aller voir le foot, il ne faudrait pas.
Ah ben voilà, excellent. Ils vont à la coupe école de foot et après, bim, gros spectacle avec Corne Brune, etc. Je ne me moque pas. Merci beaucoup Stéphane d'être venu dans cette émission.
Et merci à vous, avec plaisir et à bientôt.
Alors c'était le 98e mag de 48FM, on arrive bientôt au 100e, on va pouvoir souffler les bougies.
Un gros gâteau. Ouais.
On va faire un gros gâteau et on vous retrouve bien sûr, le prochain rendez-vous ce sera avec le Rude Boy Crew pour annoncer le festival d'Olt.
Donc on a un rendez-vous vendredi midi et demi et puis on se retrouvera ensuite en direct du festival d'Olt le jeudi 14.
Jeudi 14 de 18h à 19h avec Radio Bartas et peut-être qu'on pourra retransmettre les concerts du soir. On attend l'autorisation de Sony qui tarde un peu à venir mais on l'aura d'ici là.
Sait-on jamais.
Merci, salut.
Salut.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48FM.
Votre agenda culturel du mardi 5 au lundi 11 mai. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Alors on commence avec du théâtre et le spectacle L'Annonce, le mardi 5 à 20h30 à l'espace des Anges Amandes. Un plateau quasiment nu, cinq femmes répondent à une annonce concernant un emploi. Le libellé de l'annonce comporte des variantes. L'action se déroule pleine de rebondissements. Ces femmes se trouvent progressivement plongées dans un huis clos assez étrange. Les épreuves auxquelles elles sont confrontées défilent, plus décalées, plus insolites les unes que les autres. Arrive la sélection finale, qui est loin de correspondre à l'attente des postulantes. C'est un spectacle tout public avec un tarif de 7 euros pour les adultes, pour 4 euros pour les enfants de plus de 7 ans et gratuit pour les plus petits, et un tarif de 4 euros pour les groupes, proposé par le Théâtre du Hangar. Et il sera également joué le vendredi 8 mai et le samedi 9 mai à 20h30 au Théâtre de la Mauvaise Tête à Marvejols. Rencontre avec Thierry Arnal, directeur du Théâtre de la Mauvaise Tête, qui nous parle du spectacle Monstre.
Bonjour, nous accueillerons donc le mardi 5 mai à la salle polyvalente à 18h30 et non pas 20h30 comme d'habitude, le spectacle Monstre proposé par la compagnie La Belle Brute. Ce spectacle sera co-accueilli avec les scènes croisées de Lozère. Il est abordable dès l'âge de 3 ans, le spectacle dure 35 minutes et vous est proposé au tarif de 8 euros et 5 euros pour les enfants. Le spectacle nous parle avec beaucoup de magie du fameux moment où l'enfant va s'endormir et va imaginer que dans sa chambre il y a des milliers et des milliers de monstres. Et effectivement, hein, qui avant de s'endormir n'a jamais regardé sous son lit ou sous les couvertures pour voir s'il ne s'y cachait pas un monstre? Eh bien, ce spectacle inventif, tendre et abracadabrant vous réconcilie avec vos pires cauchemars, un vrai moment de bonheur à déguster en famille, une invention énorme, plein de peu de textes, très très peu, mais par contre une imagination hors norme. Voilà, à déguster, sans problème.
Mercredi 6 mai, à 20h30, au Ciné-Théâtre de Saint-Chély-d'Apché, du cinéma avec La Vie des gens. Ce film sera suivi d'un débat avec Françoise Martin de l'ASMA 48, l'avenir, donc santé, Marjorie de Brac. Saison après saison, la pétillante Françoise, infirmière libérale, illumine la vie des gens avec beaucoup d'humour et de tendresse. Elle fait bien plus que soigner nos aînés. Elle préserve le lien social. C'est pour du tout public, 6,80€ et 5,80€. C'est organisé par le Ciné-Théâtre de Saint-Chély.
Jeudi 7 mai à 18h15 au Théâtre de Mende, du théâtre avec le spectacle Wanted. La troupe derrière le tableau présente comme chaque année et pour la 16e fois son spectacle pour enfants. Wanted nous propose une plongée dans le Far West avec ses héros de BD. Bien sûr, les Dalton seront là, mais pas que. C'est un spectacle tout public, gratuit.
Du jeudi 7 mai au dimanche 10 mai à Chanac, donc le festival Détour du Trad, la deuxième édition. Donc c'est un moment de rencontre et d'échange autour du patrimoine musical traditionnel du Massif Central. Programmation variée qui oscille entre trad populaire, folk, jazz et musette, avec des balles, des concerts, des scènes ouvertes, des conférences, des stages de musique, du chant et de la danse et des balles pour enfants. Le jeudi 7, donc à 21h, vous aurez le duo Roche Brugno et Chilelag. Le vendredi 8 à 15h, Vira Soleil, Capeichi et Aligoton, après-midi guinguette. À 19h, ciné-concert de poche. À 21h, balle avec Astura et Comrade. Samedi 9 à 14h, une scène ouverte. À 16h, conférence sur la vie à la roue. À 19h30, conférence création Medinaki. 21h, bal avec Trio DCA, le bal Broto Lopez et duo TTC. Dimanche 10, 14h, scène ouverte avec les Loopstick, Jogar. Et à 16h, conférence sur l'accordéon diatonique. Donc c'est pour tout public et c'est organisé par l'association La Marmotte.
Samedi 9 à 21h à la Grande Halle de Mont-Aubrac de la musique avec le concert de Nadao. Nadao, c'est de la cornemuse landaise qui s'engueule avec la guitare électrique. C'est le chant traditionnel qui se frite et qui se frotte avec la musique. Nadao, c'est plus de 40 concerts par an à l'Olympia et dans de nombreux zéniths. C'est un concert tout public pour un tarif de 17 euros et 20 euros.
Lundi 11 mai à 20h30 au Ciné-Théâtre de Saint-Chély du cinéma Crosswind, la croisée des vents. Projection suivie d'une discussion avec Nicolas Planche et Christine Kissarg, professeurs d'histoire et de français au lycée Théophile Roussel. Le 14 juin 1941, les familles estoniennes sont chassées de leur foyer sur ordre de Staline. Erna, une jeune mère de famille, est envoyée en Sibérie avec sa petite fille, loin de son mari. Durant 15 ans, elle lui écrira pour lui raconter la peur, la faim, la solitude, sans jamais perdre l'espoir de le retrouver. Crosswind met en scène ses lettres d'une façon inédite. Donc c'est pour tout public, 6,80€ et 5,80€, et c'est organisé par le Ciné-Théâtre de Saint-Chély.
Vous pourrez trouver plus d'informations et de détails sur culture.lozère.fr.
Bonne semaine à tous.